VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous à la une ce soir sur VOA Afrique.
Négociations toujours dans l'impasse à Bujumbura.
À Ouagadougou, Isaac Zida sauve son poste de Premier ministre.
Je pense que le président Michel Kafando a pris une décision plutôt sage en confirmant le Premier ministre à son poste.
Nouveaux attentats de Boko Haram au Nigeria, au Tchad, Idriss Déby promet de ne jamais reculer face aux djihadistes. Le président nigérian Muhammadu Buhari arrive ce dimanche à Washington pour rencontrer Barack Obama.
Et puis on parlera évidemment de l'Aïd, évidemment, pour cette fin de Ramadan.
Au Burundi, l'opposition menace de claquer la porte des négociations à 3 jours de la présidentielle. Elle accuse le pouvoir de ne pas vouloir discuter alors que la présidentielle reste maintenue pour mardi prochain. Eddy Sango nous en dit plus.
L'ambiance était tendue aujourd'hui au 3e jour des discussions. La réunion a commencé avec 3 heures de retard. Certains responsables de l'opposition agitaient la menace de la chaise vide après que le gouvernement a réaffirmé jeudi soir que l'élection présidentielle se déroulera comme prévu mardi. Si le gouvernement persiste dans cette voie, on peut se demander pourquoi négocier, s'est indigné vendredi Charles Nditije, une des figures de l'opposition unanime à refuser la tenue des élections à cette date. L'ancien président Donatien Ndayizeye tient, lui, à poursuivre les discussions, mais estime que l'élection présidentielle pourra être annulée ou ne pas être reconnue. Le gouvernement burundais a reporté au 21 juillet l'élection présidentielle en vue de permettre au président Yoweri Museveni de mener la médiation à la demande de la communauté est-africaine. De nouveaux combats ont été signalés dans le nord du Burundi jeudi soir. Une semaine plus tôt, d'autres combats avaient eu lieu dans la même région. Selon le gouvernement, plus de 270 rebelles ont été arrêtés la semaine dernière.
Le président ougandais Yoweri Museveni qui reproche au casque bleu de la MONUSCO d'avoir échoué à désarmer les forces démocratiques alliées, les ADF, actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État ougandais estime donc que son armée devrait être autorisée à intervenir.
Fin du dialogue national en République démocratique du Congo, une tendance est favorable à la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution. Les détails en seconde partie d'émission avec notre correspondant Ngoïlan Goussou.
Nouveaux attentats au Nigeria, 3 mineurs se sont fait exploser ce matin à Damaturu, la capitale de l'état de Yobe dans le nord-est du pays. Bilan 13 morts parmi les fidèles qui s'apprêtaient à célébrer la fin du Ramadan. Et hier, 2 attaques à Gombe avaient fait plus d'une trentaine de victimes. Salwa Jafari nous en dit plus.
Ce qui devait être un jour de célébration s'est transformé en l'espace de quelques secondes, en un jour de deuil, un bain de sang. Les coupables, des enfants, selon les autorités locales. Une première explosion a eu lieu à proximité du terrain de prière de Eid al-Fitr, 500 mètres de là, une seconde, puis une troisième. Des corps déchiquetés, des vêtements maculés de sang, les secours arrivent aussitôt. Le bilan est lourd, 13 morts, plusieurs blessés. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais le mode d'opération porte la marque macabre de Boko Haram. Le groupe islamiste a eu souvent recours à des jeunes filles pour commettre des attentats suicides ces derniers mois. Le président nigérian Muhammadu Buhari, qui a mis un point d'honneur à lutter contre les insurgés islamistes, fait face à une vague de violence depuis sa prise de fonction le 29 mai. Plus de 700 personnes ont péri au Nigeria en un mois et demi.
Le président tchadien Idriss Déby Itno a promis aujourd'hui qu'il ne reculerait jamais devant les islamistes nigérians de Boko Haram dans une première réaction à l'attentat suicide qui a fait au moins 15 morts le 11 juillet au marché central de N'Djamena. Jean-Roger Billon.
Nous ne reculerons jamais devant Boko Haram, a assuré le chef de l'État tchadien qui a engagé son armée dans la guerre contre les islamistes nigériens dans un message à l'occasion des festivités marquant la fin du mois du jeûne de Ramadan. Dans la foulée pour renforcer la sécurité, le gouvernement avait interdit sur tout le territoire le port du voile islamique intégral régulièrement utilisé par Boko Haram pour dissimuler des explosifs lors d'attentats suicides. Et ce vendredi même, 19 islamistes ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram contre une position de l'armée sur les rives du lac Tchad. Un soldat tchadien a perdu la vie lors des combats. Confronté également aux attaques des islamistes, le Cameroun a aussi interdit le port du voile intégral dans la région de l'extrême nord, frontalière des fief nigérien des islamistes et du Tchad. Face à la recrudescence des attentats en Afrique centrale, le Gabon, jusque-là épargné par les violences, a également décidé mardi d'intensifier les contrôles des femmes portant le voile.
En Somalie, le chef des Chabab appelle les musulmans de toute l'Afrique de l'Est à s'engager à leur côté. Nos camps d'entraînement et nos maisons sont ouverts pour vous accueillir, a lancé Ahmed Diriyé à l'intention des musulmans d'Éthiopie, d'Ouganda et de Djibouti.
Et Barack Obama ne rendra pas visite à sa famille lors de son séjour au Kenya. Les autorités américaines indiquent que le président américain ne pourra pas se rendre dans le village de Kogelo où est enterré son père. Attendu à Nairobi dans une semaine, il restera donc dans la capitale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, l'Union européenne accorde un prêt d'urgence de 7 milliards d'euros à la Grèce pour lui permettre de rembourser une échéance de 4,2 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Annonce du commissaire européen chargé de l'euro, Valdis Dombrovskis, après le vote par le Parlement grec mercredi d'un premier volet des réformes réclamées par les créanciers et le feu vert donné ce vendredi par le Bundestag allemand. Le président de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem, s'est félicité que les conditions requises pour l'ouverture de négociations soient remplies.
En Italie, des habitants de deux localités du pays se sont opposés ce vendredi à la police où ont mis le feu à des matelas pour tenter d'empêcher l'arrivée de quelques dizaines de migrants. Le commissariat aux réfugiés a exprimé son indignation. Il faut dire que l'Italie héberge plus de 80 000 migrants ayant traversé la Méditerranée, beaucoup d'Africains, notamment des Érythréens et des Syriens.
Le tireur ayant tué 4 militaires américains avant d'être abattu hier n'était pas considéré auparavant comme une menace par les autorités. C'est ce qu'a déclaré ce matin le maire de Chattanooga, dans cette ville dans l'état du Tennessee, Nathalie Barge.
Le maire Andy Becky a déclaré ce matin sur CNN que l'auteur de la fusillade n'était pas suivi par les autorités comme un danger potentiel pour la sécurité nationale. Le FBI l'a identifié comme étant Mohamed Youssouf Abdulaziz, un jeune de 24 ans qui vivait à Hickson, une banlieue de cette ville du Tennessee. Cet Américain, originaire du Koweït, a tiré sur un centre des Marines, blessant un militaire avant de parcourir 10 km jusqu'à un autre bâtiment de l'armée où il a encore ouvert le feu, tuant 4 Marines. Les autorités ont évoqué la fusillade comme un possible acte de terrorisme. L'agent spécial du FBI, Ed Reinhold, a dit hier soir que jusqu'ici, rien n'indiquait un quelconque lien avec des terroristes internationaux et que l'issue de l'enquête permettra de connaître le motif du tireur. Le Centre américain de surveillance des sites islamistes signale qu'Abdulaziz a écrit sur un blog que la vie est courte et amère, ajoutant que les musulmans ne devraient pas manquer l'occasion de se soumettre à Allah. Le New York Times rapporte que son père était sous investigation depuis plusieurs années pour des liens possibles avec une organisation terroriste étrangère.
Violente manifestation au Caire, la capitale égyptienne. Au moins 6 personnes ont été tuées dans des heurts opposant des partisans des frères musulmans, fidèles à l'ex-président Mohamed Morsi et la police. L'incident est survenu lors d'une marche des islamistes après la prière. Des violences ont été signalées dans d'autres parties du pays, notamment dans la ville de Naya.
On part également au Maroc où deux hommes accusés de vol ont été roués de coups par la foule hier dans un souk proche de Midelt, petite ville au centre du pays. L'un d'eux âgé d'une cinquantaine d'années est mort, c'est ce qu'indiquent les médias marocains.
Le Premier ministre yéménite en exil à Riyad a annoncé ce vendredi la libération de la province d'Aden dans le sud du pays. Mais la situation semblait toujours instable puisque des combats se poursuivaient dans plusieurs quartiers de la grande ville portuaire du sud, selon des témoins. Depuis 4 mois, le Yémen est le théâtre d'un conflit dévastateur opposant d'un côté les forces gouvernementales et leurs alliés, de l'autre les rebelles chiites houthis, appuyés par des soldats restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh.
Et puis la Grande-Bretagne est prête à transmettre à Chypre, en cas d'accord de paix entre chypriotes grecs et turcs, de larges pans du territoire sur lequel se trouvent les bases militaires britanniques sur cette île divisée. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le chef de la diplomatie britannique, Philip Hammond. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Place à présent à la Minute Écho qui nous est présentée ce soir par Jean-Roger Bire.
rapport de l'OCDE paru aujourd'hui souligne que l'Afrique du Sud a fait d'immenses progrès contre la pauvreté, mais beaucoup de Sud-Africains ressentent encore les séquelles de l'apartheid et les besoins en infrastructures restent énormes. Le rapport insiste sur le besoin de réformes économiques profondes et recommande l'adoption d'un salaire minimum national, moins élevé cependant que ne le souhaitent les puissants syndicats sud-africains. Le cacao est demeuré robuste cette semaine, toujours porté par les inquiétudes sur l'offre venant d'Afrique de l'Ouest et a atteint à Londres et à New York son plus haut niveau depuis la mi-mars 2011, à respectivement 2242 livres sterling la tonne et 3389 dollars la tonne. Et les tarifs de café, eux, se sont un peu repris en début de semaine, mais le rebond n'a été que de courte durée et les prix ont atteint ce vendredi 1669 dollars la tonne, leur plus bas niveau depuis un mois et demi. Le Ghana a interdit la vente et le transport de volailles vivantes après que le virus H5N1 a tué des milliers d'oiseaux dans le pays où aucun cas de contamination humaine n'a toutefois pas été rapporté, a déclaré le ministère de l'Agriculture. Le porte-parole de l'association des fermiers avicoles, Stéphane Kwaku Daku, a imploré l'aide des partenaires au développement pour venir en aide aux élevages. Les conditions de vie des exploitants touchés sont devenues vraiment insupportables, a-t-il ajouté.
C'était la Minute Éco présentée ce soir par Jean-Roger Billon. Place à présent au sport dans cette émission. Et pour en parler, nous accueillons Timothée Donogmaï. On commence par du football et le tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions en Europe.
À Nyon, au siège de l'UEFA, on aura un choc alléchant entre Fenerbahçe et ses nouvelles stars, Van Persie, Nani, et le Shakhtar Donetsk, huitième de finaliste de la précédente édition. Monaco, quart de finaliste surprise lors du précédent exercice, sera favori face aux Young Boys de Berne, tout comme l'Ajax Amsterdam contre le Rapid Vienne. Cela semble plus équilibré entre le CSKA à Moscou et le Sparta Prague et entre le Panathinaikos et le FC Bruges.
Autre compétition, l'Europa League.
Dortmund, le club le plus huppé engagé dans le troisième tour préliminaire de cette Europa League, affrontera un club bélarusse ou autrichien, Shakhtar Soligorsk ou Wolfsberg. La seule affiche à noter du Fête des Nations en présence oppose les Anglais de Southampton aux Néerlandais du Vitesse Arnhem.
Ces deux saisons, parlons des transferts.
Le gardien Kiko Casillas de l'Espagnol Barcelone a été transféré pour 6 millions d'euros vers le Real Madrid dans le but de remplacer éventuellement l'emblématique gardien Iker Casillas, a annoncé vendredi le club catalan. L'entraîneur de Lyon, Hubert Fournier, a annoncé pour sa part qu'un accord avait été trouvé entre l'OL et le Standard de Liège pour un transfert de l'attaquant international guinéen Mohamed Yatara vers le club belge. Âgé de 21 ans, Yatara, originaire de Conakry, est à l'Olympique lyonnais depuis 2011.
On part pour Londres, c'est du tennis.
La France mène 1-0 en Grande-Bretagne lors des quarts de finale de la Coupe Davis après le succès de Gilles Simon face à James Ward. Le score 6-4, 6-4, 6-1. Joe Wilfried Tsonga est opposé dans le deuxième match à Andy Murray.
En cyclisme, le Tour de France se poursuit.
Le Belge Greg Van Avermaet, BMC, a remporté la 13e étape à Rodez devant le Slovaque Peter Sagan, une nouvelle fois deuxième. Le Britannique Chris Froome, Sky, a conservé le maillot jaune après cette étape de transition marquée par une forte chaleur jusqu'à 40 degrés sur la course.
Et enfin, Timothée facture salée pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo.
La révision du projet du futur stade olympique ordonné vendredi par le gouvernement japonais n'aura aucune incidence sur sa livraison pour les Jeux olympiques et paralympiques, a indiqué John Coates, vice-président du Comité international olympique, CIO. Pourtant, le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a ordonné une révision complète du projet de futur stade olympique en réponse aux nombreuses critiques sur son coût, estimé à près de 2 milliards d'euros.
Merci, c'était Timothée Donogmaï pour la page des sports.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nicolas Pinault et Morgane Guiriec en votre compagnie. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission.
Première escale, le Congo-Brazzaville, où le dialogue national a démarré depuis le début de la semaine, à plusieurs centaines de kilomètres de Brazzaville, la capitale, à Sibiti. Ce dialogue national vient de s'achever. Pour en parler, nous retrouvons le correspondant de VOA Afrique au Congo-Brazzaville, Nguelan Goussou. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Alors Nguela, on peut annoncer ce soir qu'il n'y a pas eu d'accord entre les différents participants à ce dialogue national. Pourtant, une majorité est favorable à une modification de la Constitution.
Tout à fait Nicolas. Donc à l'issue des travaux qui ont duré à Sibiti, à quelques 370 km de Brazzaville, trois tendances se sont dégagées. La première tendance, c'est la tendance majoritaire. Majoritaire par rapport à plus de 600 participants qui ont pris part à ce forum. Donc la première tendance voudrait qu'on change la constitution et cette tendance fait des propositions, notamment concernant la durée du mandat présidentiel qui devait passer à 5 ans au lieu de 7 ans, également à l'âge de candidature du président de la République, donc au lieu de 40 ans, on ramène à 30 ans. Et puis ouvrir un poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Donc cette tendance-là représente, selon le communiqué final, une large majorité qui s'est dégagée en faveur de ces réformes. Mais il y a aussi une tendance qui est à peu près favorable aux réformes proposées, mais pense qu'avec la révision de la Constitution, le président de la République peut faire passer toutes ces réformes plutôt que de faire couler toute la Constitution. Enfin, il y a une autre tendance qui veut qu'on ne touche pas la Constitution, qu'on la laisse telle qu'elle. Donc voilà à peu près les trois tendances, ce qui fait que finalement le consensus ne s'est pas dégagé à Sibiti lorsque les participants ont quitté la salle.
Nguelan Goussou, quelle est aujourd'hui l'humeur, l'ambiance au sein de la population congolaise? On rappelle que Denis Sassou Nguesso cumule plus de 30 années au pouvoir, entre évidemment ses deux participations au pouvoir, notamment depuis 1979 et après lorsqu'il est revenu au pouvoir. Aujourd'hui, quelle est l'ambiance? On parle beaucoup en Afrique de troisième mandat et d'alternance. Quelle est l'ambiance dans votre pays?
Bon, l'ambiance, c'est surtout avec la fin du forum de Sibiti, l'ambiance, c'est un peu l'incertitude. Le lendemain, on ne sait pas de quoi il est fait. C'est pour ça, d'ailleurs, les participants au forum de Sibiti, après avoir proposé tout ce qu'ils ont proposé comme réforme, eh bien, ils vont remettre tout ce document au président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour qu'il en décide. Or, si le président Sassou Nguesso reste logique à ce qu'il a toujours affirmé, c'est-à-dire si la classe politique ne s'accorde pas, il sera obligé de convoquer un référendum constitutionnel afin que le peuple tranche sur cette question. Donc c'est une démarche, c'est une voie aujourd'hui qui est ouverte vers ce référendum qui pourrait donc conduire à un référendum et donc peut-être à un changement de la Constitution, Nicolas.
Merci beaucoup. C'était Nguelan Goussou, le correspondant de VOA Afrique à Brazzaville.
Fragile transition au Burkina Faso. Hier, le chef de l'État burkinabé, Michel Kafando, a décidé de maintenir son Premier ministre, Isaac Zida, alors qu'une partie de l'armée réclame sa démission à 3 mois d'une présidentielle cruciale. Pour une analyse, Claire Morin-Gibou rejoint l'analyste spécialiste en politique africaine, Dania Yida.
Je pense que le président Michel Kafando a pris une décision plutôt sage parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il essaye de régler cette situation. Il a essayé personnellement de faire la médiation entre les militaires et le Premier ministre. Il a impliqué des sages du pays et je crois qu'il a fini par épuiser toutes ses cartes et il a décidé de prendre ses responsabilités en confirmant le Premier ministre à son poste.
Mais le déchoir de son poste de ministre de la Défense va-t-il suffire à gérer les frustrations que l'on sent de plus en plus importantes au sein de l'armée?
Ce n'est pas si sûr. Je crois qu'il y a plusieurs défis et les enjeux qui ont amené à dernier changement. Je crois que c'est caractéristique de cette transition assez originale, assez atypique au Burkina Faso, où l'équilibre doit être recherché entre plusieurs intérêts, entre des acteurs de la société civile, des acteurs indépendants et des partis politiques. Donc, il faut pouvoir négocier avec tous ces groupes-là pour trouver l'équilibre, ce qui est très difficile. Et pour une fois, je crois que le président a été assez incisif, hein. Il a critiqué cette situation, il a attiré la responsabilité de l'armée vis-à-vis de la situation générale. Maintenant, si les militaires ne sont pas satisfaits, je crois qu'ils sont obligés maintenant de dévoiler toutes leurs cartes. Est-ce qu'ils ont envie de prendre le pouvoir? Est-ce qu'ils ont d'autres moyens d'obliger leurs collègues qui sont au CNT et au gouvernement de quitter ces institutions de la transition? Et ce n'est pas si sûr parce que si les militaires ne veulent pas se mêler de politique, je crois qu'ils sauront trouver la limite quand même de leur capacité d'implication dans ce processus politique.
Alors la transition burkinabé semble quand même de plus en plus instable. Pensez-vous que l'on va pouvoir aller aux élections sans risque?
Les risques sont là, hein. Maintenant, c'est plutôt la capacité des acteurs à gérer ces risques qu'il faut apprécier. Déjà, en l'espace de 48 heures, on a vu beaucoup de décisions prises. On a vu déjà la poursuite de l'ancien président au niveau judiciaire qui a été enclenchée, y compris des ministres qui étaient dans son gouvernement et un certain nombre d'acteurs clés. On a vu que dans son intervention hier, le président a pris acte de la décision de la Cour de la CEDEAO qu'il s'engage à appliquer, ce qui quand même constitue une certaine ouverture. Mais en même temps, quand on voit les poursuites contre les anciens barons du régime, on se demande quelle sera leur réaction quand ils vont sentir que finalement toutes les issues leur sont bloquées.
Voilà, c'était Dany Aïda, spécialiste en politique africaine, joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est attendu dimanche aux États-Unis pour une visite de 4 jours. Il sera entre autres reçu lundi par son homologue Barack Obama. Quels seront les principaux thèmes de discussion entre les deux chefs d'État? Pour une analyse, Idriss Fall a joint notre confrère Tunde Fatunde, professeur à l'Université d'État de Lagos.
Cette visite va être réciproquement intéressante pour les deux pays. D'abord, vous avez suivi ce qui s'est passé au Nigeria dans la ville de Damaturu aujourd'hui. Et on a suivi aussi ce qui s'est passé dans une ville de Kenessie aux États-Unis, dans un camp militaire, où un supposé djihadiste a éliminé la vie de quelques soldats américains. Donc les deux vont essayer de voir comment ils peuvent rentrer en partenariat pour lutter contre la terreur. Surtout, les États-Unis disposent des moyens les plus sophistiqués en matière de drones et de services de renseignement. Le Nigeria est une puissance militaire sous-régionale. Et les deux peuvent être compatibles pour pouvoir lutter contre le djihadisme.
Mais Washington avait envoyé des conseillers militaires peu après l'enlèvement des lycéens de Chibok.
Tout d'abord, la lutte contre la terreur est une lutte de longue haleine. Depuis 2001, il ne faut pas avoir des illusions comme quoi on envoie des spécialistes et puis libérer les filles de Chibok. C'est une lutte de longue haleine. Les djihadistes changent de tactique. Par exemple, actuellement au Nigeria, les djihadistes n'occupent plus de villes ni de villages. Mais en même temps maintenant, ils envoient les filles et fillettes et les vieillards de 80 ans pour aller se faire exploser dans des marchés, dans les églises, dans les mosquées. Alors donc, le service de renseignement maintenant doit faire son travail. Et les États-Unis, en matière de service de renseignement, sont réputés d'être en avant par rapport au Nigeria. Bref, la lutte contre la terreur est une lutte de longue haleine. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans. Face à des djihadistes qui n'ont peur de rien, c'est une guerre non conventionnelle et les deux pays doivent quand même partager des informations, comment ils peuvent s'engager dans cette lutte. Le deuxième point, c'est sur le plan économique. Après des analyses faites par des services de renseignement du Nigeria et même de FBI, certains responsables politiques nigériens aurait dissimulé des centaines de milliards de dollars dans les banques américaines et aussi occidentales.
Donc lutte contre la corruption, quoi.
Absolument. Et puis le troisième point le plus épineux, c'est que les compagnies américaines n'achètent plus de dollars noirs du Nigeria, qui est la principale source de recettes et de revenus en devises. Voilà, va essayer de convaincre Obama comment est-ce qu'il peut faire fléchir les compagnies pétrolières américaines d'acheter de l'or noir nigérien, mais ce serait difficile compte tenu du fait que l'intérêt économique de la nation américaine prédomine, dans ce sens que la découverte de pétrole de schiste rend maintenant aux États-Unis un premier exportateur de l'or noir. Voilà à peu près ce que moi j'entrevois dans cette visite avec Buhari aux États-Unis.
Tunde Fatunde, professeur à l'Université d'État de Lagos.
C'est aujourd'hui l'Aïd à Gao. La fête marquant la fin du mois du jeûne du Ramadan a été célébrée dans le calme et la sérénité, sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité du Mali. Les musulmans ont prié pour le retour de la paix, la cohésion sociale et le développement. Correspondance de Boubacar Touré.
Tôt ce matin, les fidèles musulmans de Gao ont pris d'assaut la place Jigenchor au 4e quartier où l'imam de la mosquée de Djoulabougou a dirigé la prière en présence des autorités administratives et politiques. Les musulmans ont prié pour le retour de la paix et le développement.
J'ai observé le jeûne pendant un mois et je suis venu aujourd'hui à la fin de ce mois demander qu'il y ait la paix et la concorde dans mon pays. La paix et la réconciliation.
Le mois de Karam, c'est un mois béni. Le dernier jour, c'est le jour de la fête. Nous fêtons pour le Dieu. Mon pays, que la paix revienne à 100% de notre pays. Il est temps aujourd'hui que nous, les Maliens, Tsoré, Bambara, Tamashek, que nous revenions à la raison. Les armes ne servent à rien. Ce qu'on a perdu de 2012 à aujourd'hui, dans ce pays-là, c'est trop en être humain. Nous demandons à Dieu de donner la force et les moyens à notre président pour développer notre pays. Que notre pays soit un pays de manger, de boire, de paix et de garantie.
Le dispositif sécuritaire était assuré par les forces de défense et de sécurité du Mali, ce qui rassure d'ailleurs les musulmans qui souhaitent prier la prochaine fois sans être entourés d'hommes en armes.
La paix, comme on est en train de l'admirer, de l'observer, par rapport aux autres années, vraiment, on remercie le bon Dieu. L'année dernière et cette année, il y a une différence. On a bien prié cette année, on n'a pas eu besoin de chars de combat, on n'a pas eu besoin de ceci ou cela, uniquement les forces maliennes qui sont là sur place pour assurer, comment dirais-je, la sécurité. Ça, déjà, c'est un acquis. Et on demande, n'est-ce pas, à ce que les uns et les autres, pas les marabouts seulement, hein, même parmi ceux qui ne sont pas marabouts, il y a des gens que Dieu entend là.
J'ai demandé à Dieu un Mali en paix et nous donner la force de contrer toutes les velléités des islamistes qui se disent agir au nom de l'islam alors que c'est au nom de Satan qu'ils agissent. Je souhaite que l'année prochaine, nous fêtons cette fête avec plus d'allégresse.
Le président du conseil régional de saisir cette opportunité pour inviter les uns et les autres à s'engager davantage pour la paix afin que la région de Gao retrouve ses anciens repères. Ould Idriss, président du conseil régional.
Aujourd'hui, vraiment, c'est un jour de joie et je profite de l'occasion pour présenter mes vœux de bonheur et de bonne santé et de réussite pour l'ensemble de la population de la région. Et je pense qu'on doit prier pour que ces joies-là continuent. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés, surtout tout récemment le 20, les signatures des accords. Donc il faut que l'ensemble des populations de la région s'engagent pour que Gao devienne ce qu'il était.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi s'achève notre émission. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, Tian Wang à la console technique.
La présentation était assurée par Morgane Guerrier et Nicolas Pineau. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Un point complet sur l'actualité, c'est dans quelques secondes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.